Bonjour et bienvenue dans l'émission Joy au pays des droits de l'homme. Au cours de cette émission, nous avons pris l'habitude de parler des droits de l'homme avec un accent sur la Cour européenne des droits de l'homme et son instrument juridique, la Convention européenne des droits de l'homme. Si de nombreux juristes et avocats gravitent autour de la Cour de Strasbourg, il y a également un travail en matière des droits de l'homme qui s'opère dans la capitale française. Aujourd'hui, je reçois un avocat parisien qui est responsable de la Commission des droits de l'homme au barreau de Paris. Maître Carbon de Cèze, bonjour.
Bonjour, chers consoeurs.
Avant de parler de votre travail à la Commission, j'aimerais vous poser quelques questions sur votre parcours. Je demande souvent aux avocats ce qui les a motivés à choisir le droit. Pouvez-vous nous dire quelle motivation était la vôtre?
Oh, c'est une motivation double. Hein. J'ai été élevé dans une culture respectueuse de l'état de droit, qui était très soucieuse, et mes parents étaient très épris de la notion de justice. Et puis, le barreau, c'est ce qui offrait l'aventure, c'est-à-dire se lancer, prendre un risque entrepreneurial, vivre l'aventure libérale, et exercer le plus beau métier, c'est-à-dire celui de la défense.
Donc, vous êtes avocat pénaliste, mais vous avez publié des articles sur les libertés publiques.
Oui.
Pouvez-vous expliquer aux auditeurs ce qui lie ces deux facettes du droit?
Écoutez, les libertés publiques fondent un socle de valeurs. Vous savez que la règle de droit est une chose compliquée à articuler. Votre question est d'autant plus intéressante que souvent dans les médias, on a une vision réductrice du droit, où on pense qu'il suffit d'ouvrir un code pour avoir un tarif. Et en réalité, si vous et moi, nous avons fait 5 ans d'études avant de pouvoir prêter serment, c'est parce que c'est un peu plus complexe. Et je ne réduirai pas les libertés publiques au droit pénal, mais je vais venir à votre question, mais en réalité, les libertés publiques et individuelles irriguent tout le droit. Je pense par exemple au droit du travail. Actuellement, nous avons un sujet en France sur le droit de grève. Bon, on voit bien qu'il y a, avec le droit du travail, un ensemble de dispositions qui encadrent le droit de grève. La matière pénale est celle qui vient, vous avez raison, le plus immédiatement à l'esprit. Pourquoi ? Parce que c'est l'enjeu de la liberté individuelle dans son aspect le plus concret qui est en jeu. C'est-à-dire que les autres branches du droit entraînent des sanctions pécuniaires, là où le droit pénal vient sanctionner en atteignant la liberté individuelle. Donc le droit pénal est irrigué par les libertés publiques parce qu'il aide à définir le périmètre de la règle de droit applicable.
Oui, effectivement. Et il y a peut-être aussi un lien par rapport au droit des détenus, le droit au procès équitable.
Vous avez tout à fait raison. Hein. Vous faisiez mention dans votre introduction de la Convention européenne des droits de l'homme. Et évidemment, on pense plus particulièrement à l'article 6. Nous avons également un sujet en France sur le délai raisonnable, la condition des détenus. Je salue les travaux effectués par nos confrères de l'Observatoire international des prisons. Si vous voulez, tout converge en réalité vers une notion qui permet d'appréhender le droit, les principes fondamentaux de la République française, qui sont une norme juridique, les grands principes qui ont été dégagés par le Conseil constitutionnel, qui aident aussi à comprendre quelle est la portée de la règle applicable. Nous avons des sujets avec la Convention européenne. Tout ça, ça fonde un ensemble de valeurs qui viennent imprimer la façon dont on applique la loi en France. Quel que soit le sujet, qu'il s'agisse de l'instruction, de l'enquête, du procès lui-même, et vous aviez raison d'évoquer le sort des détenus et l'exécution de la peine. C'est-à-dire que du début à la fin, de la séquence pénale qui peut atteindre qui que ce soit, la question des libertés publiques sera présente également dans les débats.
Okay. Vous vous êtes engagé dans de nombreuses organisations au cours de votre carrière, et notamment l'association La Fraternité du Barreau de Paris, dont vous êtes l'un des fondateurs. De quoi s'agit-il?
C'est au lendemain des attentats du 13 novembre. Nous nous sommes réunis avec mes confrères Bernard Cahen et Chem Sedine Hafiz, qui, entre-temps, est devenu recteur de la mosquée de Paris, et puis de nombreux autres avocats qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre. Qu'est-ce que nous voulions dire? Nous voulions dire que le droit est un excellent vecteur de paix sociale notamment, de paix politique aussi. On le sait en France à travers, par exemple, l'édit de Nantes qui a réglé les conflits confessionnels entre protestants et catholiques. Et donc nous avons dit, voilà, il faut que tous ceux qui y communient à une foi qui se réfère à Abraham ne regardent pas les débats politiques sans y contribuer. Et par conséquent, il faut qu'il y ait un vecteur par le droit, c'est-à-dire un dialogue interconfessionnel par le droit qui puisse s'instaurer à côté des autres dialogues interconfessionnels. On ne prétend pas se substituer à ce que font les différentes confessions entre elles, ni se substituer à l'action de l'État. C'est une association en plus qui offre cette possibilité d'un dialogue interreligieux. Alors ainsi, nous avons fait visiter les lieux de culte des différentes religions. Nous avons fait visiter les écoles d'apprentissage de la foi des différentes religions. Et puis nous avons fait dialoguer les juristes et les hommes de Dieu des différentes confessions qui composent, sachant que la Fraternité du Barreau de Paris ne se limite pas du tout aux croyants, mais les libres penseurs y sont également présents.
D'accord. C'est intéressant que dans un État laïque, vous avez fondé cette association qui laisse la parole à la religion. Vous pensez que la religion devrait ou qu'il y a de la place pour qu'il joue un plus grand rôle?
Non, pas forcément un plus grand rôle, mais pas un plus petit rôle que celui qui est le sien. C'est-à-dire, il faut qu'elle sache se tenir à distance des enjeux publics et éviter, depuis la loi de 1905, d'intervenir de façon intrusive dans le débat public. Mais le faire religieux ne doit pas non plus être négligé. C'est une des composantes de l'humanité. Et par conséquent, il n'y a aucune raison de le mépriser parce que, sous l'angle d'une laïcité mal comprise, ce serait contraire à la laïcité. Vous savez, la loi de 1905, dès son article 1, intègre les cultes, hein, elle ne les exclut pas. Mais ce n'est pas une association cultuelle.
Non.
C'est une association d'abord de juristes. Et ces juristes s'intéressent aux faits religieux en proposant de faire dialoguer les différentes religions, notamment par le prisme de ce que le droit nous enseigne, c'est-à-dire une méthode et une philosophie.
D'accord. Je pense que actuellement, on va discuter un projet de loi sur la fin de vie, et je me suis posé la question justement du rôle du fait religieux dans cette question.
Bon, vous avez tout à fait raison, et vous êtes Radio Judaïka, donc vous connaissez les travaux de Chaim Korsia qui sont tout à fait remarquables.
Oui, bien sûr.
Et nous lui avons souvent demandé d'intervenir à la Fraternité du Barreau de Paris, et Chaim, qui est un ami, s'y est prêté toujours de bonne grâce et de façon très éclairante. Je pense que votre exemple est excellent. Si on réfléchit les questions bioéthiques sans prendre en compte les réflexions des religions sur les questions bioéthiques, on passe à côté d'une immense dimension du problème. Je m'explique. Il se trouve que les trois grandes religions du livre qui composent majoritairement l'ensemble des croyants présents en France s'accordent sur la plupart des questions bioéthiques sous un postulat qui est le respect de la vie et le principe de prudence chaque fois que la loi vient statuer sur les questions vitales. Pour qu'une loi soit bien appliquée, il faut d'abord qu'elle soit comprise et qu'elle soit perçue comme étant juste. Si le débat sur la fin de vie venait à omettre la question de la croyance religieuse dans son appréhension et de l'apport philosophique des religions à la question, les juifs depuis 5000 ans, les chrétiens depuis 2000 ans, les musulmans depuis 1400 ans, eh bien, en réalité, on accepterait de rendre une copie qui serait incomplète.
Tout à fait. Oui. Alors, je voulais vous demander, qu'est-ce que le comité d'éthique du plan de vidéoprotection pour Paris et quel a été votre rôle?
Alors, moi, je l'ai quitté depuis longtemps, hein, parce que la règle de ne pas faire plus de deux mandats, la question de ce comité, c'était de vérifier d'abord la conformité avec les règles de la CNIL du dispositif qui était mis en place, et puis c'était de veiller à la bonne application des règles que nous avions fixées. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. C'est nous qui avons fait griser, c'est-à-dire noircir les images, quand dans l'angle de la caméra, on pouvait voir ce qui se passait chez quelqu'un. Mmh. Voilà. Mais pour être tout à fait complet sur le propos, nous nous appelions comité de vidéosurveillance au départ, et le terme de vidéoprotection est intervenu très postérieurement et dans un simple souci de communication. Parce qu'en réalité, la vidéosurveillance ne vous protège de rien. Non. Elle se contente de constater quand elle fonctionne ce qui a été commis. Mais ça ne permet pas une intervention immédiate des forces de l'ordre pour mettre fin à une agression. Donc il faut bien parler de vidéosurveillance. Et non pas de vidéoprotection.
D'accord.
Qui est un abus de langage. Pourquoi ? Parce que en réalité, on s'éloigne de la loi CNIL de 78 et de ses dispositifs pour rentrer dans une société de surveillance. Et à cet égard, vous voyez, il y a un dispositif qui va être mis en place, puisque vous vous intéressez aux libertés publiques, pour les Jeux Olympiques de 2024, qui est un dispositif qui est très attentatoire et dont l'étude d'impact laisse rêveur, notamment sur les caméras embarquées par drone et les systèmes d'identification faciale. Voilà, donc là, il y aura un très gros sujet de débat.
Effectivement. Mais on peut comprendre néanmoins les enjeux des Jeux Olympiques, justement, avec un public venu du monde entier. Il y aurait un besoin de surveillance.
Mais on est peut-être en train d'atteindre un point de désaccord tous les deux. D'abord, qu'on doive la sécurité aux étrangers que nous accueillons, c'est du ressort de l'évidence.
Oui.
Mais on doit la sécurité à tout le monde. Bon. Et c'est pas parce que il y a des étrangers qui viennent et qui se placent sous notre protection pour passer des Jeux Olympiques paisibles que nous sommes moins en France et donc moins soumis aux principes fondateurs de la loi française. Donc si vous voulez, l'argument qui consisterait à dire puisque c'est un événement international, nous pouvons déroger à nos principes fondamentaux, est un argument juridiquement faux. Ça reste d'ailleurs, tous les désordres qui pourraient être commis resteront de la compétence des tribunaux français où sera appliquée la loi française. Donc en amont, la loi française doit continuer à être appliquée et ces dispositifs qu'on nous présente comme exceptionnels, dont on sait qu'ils sont toujours pérennisés après, sont des dispositifs qui, s'ils sont attentatoires aux libertés individuelles et aux libertés publiques, doivent être sanctionnés. Je vous rappelle que le Conseil d'État avait sanctionné ce dispositif pendant le confinement, quand il avait été utilisé par le préfet de police de Paris, et que deux fois de suite, le Conseil d'État en a sanctionné l'usage. Et que depuis, nos principes fondamentaux n'ont pas changé, donc on essaye de rentrer à nouveau un dispositif dérogatoire, Et dérogatoire, c'est déjà un problème majeur, dérogatoire sans débat qui précède son application, puisqu'il est prévu que ce sont de simples décrets. Quel est le sujet qui le mettront en place et qui le pérenniseront ensuite? Quel est le sujet qui est contraire aux libertés publiques? C'est-à-dire que nous avons une police administrative sans débat, c'est-à-dire par souci d'efficacité, seule au mépris des règles. Mais le souci d'efficacité seul, il vous conduira demain à vous promener avec une caméra au-dessus de la tête pour qu'on puisse systématiquement vérifier tout ce que vous voulez. Donc une société de surveillance généralisée n'est pas une société qui correspond aux civilisations libérales occidentales.
D'accord. Vous redoutez un scénario à la chinoise?
Oui, on peut dire à la chinoise. En réalité, il y a 1000 comparaisons possibles. Ce scénario est déjà en place. Hein. La notion de scénario évoquerait quelque chose de romanesque. Or là, c'est en train de rentrer dans le droit français. C'est ça l'immense sujet, si vous voulez. Okay. Donc il faut savoir reprendre ses esprits et notamment bien considérer que la sécurité est une condition de l'égalité de chaque citoyen, mais n'est pas au même rang que l'égalité.
Ok. J'aimerais maintenant venir à votre engagement en tant que responsable de la Commission des droits de l'homme au barreau de Paris.
Oui.
Pouvez-vous nous décrire cette commission et votre fonction?
Alors, les commissions ouvertes, ce sont des commissions thématiques qui rassemblent tous les avocats du barreau de Paris qui souhaitent y travailler. Et d'ailleurs, les confrères du barreau de Strasbourg, ils sont les bienvenus quand ils veulent se connecter à nos travaux ou venir physiquement, ils seront toujours les bienvenus. Qu'est-ce que c'est qu'une commission ouverte? Une commission ouverte, c'est quelque chose qui a été institué il y a une dizaine d'années au barreau de Paris pour que les confrères puissent échanger sur des points techniques. C'est-à-dire que ça existe en matière de droit commercial, de droit du travail. Vous avez beaucoup de commissions qui travaillent. Qu'est-ce qu'on fait? On y vient, il y en a un qui fait un exposé technique sur un point qui est défini à l'avance, et les autres qui contribuent à ces travaux en apportant leurs expériences, leur jurisprudence, et ça produit des échanges qui permettent de nous perfectionner dans notre art d'avocat. Voilà ce qu'est une commission ouverte. La commission droits de l'homme a une spécificité, c'est que en réalité, les droits de l'homme, comme nous l'évoquions tous les deux tout à l'heure, irriguent tout le droit. Mais il n'y a pas un avocat des droits de l'homme. Vous voyez, il y a des avocats particulièrement remarquables en matière de droits de l'homme. Je pense à mon confrère François Zimeret. Mais il n'y a pas d'avocat des droits de l'homme, même si maintenant il y a un pôle dédié aux droits de l'homme. Mais ça reste de la matière pénale d'abord. C'est la procédure qui y est applicable. Et donc dans cette commission, nous travaillons parfois en collaboration avec d'autres commissions ouvertes sur des thèmes. Vous voyez, la dernière réunion était consacrée à la présomption d'innocence. Et par conséquent, comment en matière notamment de procédure pénale, le respect de la présomption d'innocence peut intervenir dans la discussion que nous avons avec les juges.
Votre rôle en tant que responsable de la commission des droits de l'homme.
Oui, je vous indiquais que le responsable de la commission droits de l'homme n'est rien d'autre que l'organisateur des travaux de la commission ouverte, c'est-à-dire qu'on en définit les sujets et on préside les travaux et voilà, ça ne vous confère pas une autorité morale sur vos confrères, ça veut simplement dire que vous êtes responsable du bon fonctionnement de la commission et du fait qu'elle produise du travail régulièrement.
Ok, j'ai compris. Alors, parmi vos nombreuses publications, vous avez écrit en 2013 « La guerre des secrets », dans lequel vous avez évoqué trois secrets concurrents. Le secret des sources visant à aider les journalistes à accomplir leur mission d'information, le secret de l'instruction et le secret professionnel des avocats.
Oui.
Avec l'ampleur que prend l'affaire Palmade depuis quelques jours, pensez-vous que les médias ont dépassé certaines limites?
Alors, vous savez que la jurisprudence a statué là-dessus, hein, le besoin d'information du public prime. Bon, moi, je regrette, ça ne date pas de l'affaire Palmade, que le secret de l'enquête soit systématiquement battu en brèche au nom de l'information. Pourquoi ? Pas par souci d'opacité, mais simplement parce qu'on travaille bien quand on travaille dans le calme et dans le silence, et non pas dans le chaos, et notamment le chaos que produisent les tenants de l'opinion publique, si vous voulez. Le procureur de la République est là pour protéger les intérêts du public, pas pour être sensible à ce que lui dicte l'opinion publique. Vous voyez, il y a quelque chose de très symptomatique. Hein. L'opinion publique veut que Pierre Palmade soit détenu au lieu d'être soigné. Elle a le droit de le penser, mais en droit, ça ne se passe pas comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait du côté du parquet? On multiplie les voies de recours. Hein. Le référé détention est très symptomatique, parce que vous qui êtes avocate et tous nos confrères le confirmeront à qui veut, c'est une voie de recours qui est rarissimement employée. Et elle n'est mue par quoi, cette voie de recours? Que parce qu'il y a une opinion publique qui regarde ce que font les différents acteurs de la chaîne pénale. Les victimes d'accidents de la route, hein, d'homicides et blessures involontaires, ils n'ont pas eu le même traitement au tribunal de Melun 15 jours avant ni 15 jours après. Donc ce sur quoi vous attirez mon attention, c'est la responsabilité des médias, mais en réalité c'est la responsabilité de tout le monde. Soit on traite toutes les victimes à égalité, soit on accepte qu'en réalité il y a un traitement spécifique des personnalités en vue et de leurs victimes, pour simplement communiquer sur le fait que la justice s'applique. Mais le message qui est envoyé, c'est qu'elle ne s'applique pas de la même façon pour tous. Vous voyez, les victimes de l'accident qu'a causé Pierre Palmade,
oui,
sont paradoxalement dans le drame qu'elles vivent et auquel nous compatissons, mieux traitées que des victimes habituelles, parce que du fait que les médias violent le secret de l'enquête, elles en savent plus que les victimes en connaissent habituellement dans ce genre de dossier.
Oui, c'est problématique.
Vous voyez les paradoxes auxquels conduit cette affaire.
Tout à fait. OK. Alors, ayant été formée en Australie et en France, j'ai constaté des différences de taille dans l'enseignement du droit dans ces deux systèmes. En 2017, vous avez fait des propositions pour réformer l'enseignement du droit en France à la lumière des systèmes étrangers. Quelles étaient ces propositions?
Oh, c'était de mettre beaucoup plus en avant notamment la notion du droit comparé. C'est-à-dire que je pense qu'on a beaucoup à apprendre de la common law. Et puis, ce sont des enseignements en réalité qui ne se limitent pas à la formation initiale, mais j'insistais beaucoup sur la formation continue, mm-hmm, et la mobilité professionnelle. C'est-à-dire qu'en France, nous sommes très figés. Vous voyez, une fois que nous sommes au barreau, nous sommes au barreau. Nous sommes dans un système de droit continental, et une fois que nous sommes dans la magistrature, nous sommes dans la magistrature. Vous venez d'un pays où s'applique la common law, où la circulation des compétences est beaucoup plus fluide. Et je préconisais qu'on en vienne à ça, c'est-à-dire qu'il y a une circulation entre barreaux et magistrature beaucoup plus simple. Je vais vous donner un exemple. C'est pourquoi ? D'abord parce que je pense que c'est enrichissant intellectuellement, que les gens se comprennent mieux et que donc ça sert les intérêts du justiciable, que les esprits de corps s'apaisent à la confrontation du réel. Et dans ce cadre, si vous voulez, je suis stupéfait de voir qu'il n'y a que 23 avocats qui ont été intégrés l'année dernière dans la magistrature. Je pense que c'est insuffisant. Je pense que le garde des Sceaux, quand il est venu à la rentrée solennelle du barreau de Paris, a annoncé la création de 4000 postes de magistrats, du fait des problèmes que rencontre aujourd'hui la magistrature pour traiter dans un délai raisonnable, on y revient, les dossiers qui lui sont soumis. Je suis étonné qu'il n'y ait toujours aucune passerelle un peu sérieuse pour intégrer ces 4000 nouveaux magistrats, en songeant qu'il y a un bassin naturel pour aller les chercher, qui est le barreau français.
Oui, tout à fait. Et puis, dans le système anglo-saxon, les juges sont d'anciens avocats, sans exception.
C'est exactement là que je voulais en venir, bien sûr. Et ils peuvent redevenir avocats après,
oui.
Et inversement. Et nous, nous sommes dans un esprit de corps, hein, c'est-à-dire depuis la création de l'École nationale de la magistrature en 1948, les choses sont très figées. Eh bien, pour le justiciable, ça peut se traduire par, comme ça se traduit par des incompréhensions mutuelles et des tensions, mais ces tensions, ce ne sont ni les magistrats ni les avocats qui les payent, ce sont les justiciables. Et ça, ce n'est pas admissible, parce que nous sommes là pour servir le justiciable les uns et les autres, et pas pour que le retentissement de nos visions divergentes soit le crée un préjudice pour le justiciable.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu nous parler sur l'émission des droits de l'homme.
Merci à vous.
Et on vous souhaite bonne chance pour les élections du bâtonnat en 2024.
Comme c'est gentil. Merci. Merci. J'y suis sensible. Et je prends vos bonnes ondes.
Merci.
Et tous mes vœux de succès à Radio Judaïka.
Merci.